Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
On va commencer ce matin. Nous sommes dans une nouvelle série. Dieu nous a mis à cœur cette série. Le filet. Et je crois par la foi, il y a plusieurs choses qui sont arrivées depuis le début de l'année. Et ceci dit, je crois que cette parole que Luc Dumont nous a emmenée au début de l'année, cette année, vent dans le dos, je la crois fermement. Je crois qu'elle est prophétique pour l'Église Nouvel Espoir. Et nous lançons le filet aujourd'hui. Et nous, avec foi, nous croyons que Dieu, sans aucune rancune, parce que notre Dieu n'a aucune rancune, il va non seulement déverser son esprit sur nous, mais il va aplanir les sentiers devant nous. Et ceux qui le croient peuvent dire amen. Il y a un pasteur qui habitait dans une grande ville. Il s'est promené, puis il devait aller dans un rendez-vous pour arranger, ajuster quelque chose auprès de certains de ses paroissiens. Alors, il cherchait un stationnement. Et quand il cherchait le stationnement, un peu comme à la prochaine diapo, il a vu un signe de parking. Il n'y a pas de parking. Je crois que vous avez déjà vu ce signe pour ceux qui habitent Montréal et Ottawa dans le centre-ville. Et si tu es parqué devant ce signe et tu reviens après 30 minutes, c'est une mauvaise nouvelle. Et il a vu ces signes-là partout. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de stationner. Et quand il a décidé de stationner, il a laissé une note. Une note disant... Je stationne ici parce que j'ai fait le tour du quartier 100 fois. Et après les 100 fois de tour de quartier que j'ai fait, je n'ai trouvé aucun stationnement. Je suis dans une impasse. Pardonnez-moi de mon offense. Alors le pasteur s'en va à son rendez-vous et à son retour, à sa grande surprise, il voit une contravention sur son véhicule. Mais l'officier de l'ordre, ils sont tellement gentils, lui a laissé une note. Et dans cette note, l'officier lui dit la chose suivante. Il dit, « J'ai patrouillé le quartier depuis 10 ans. Si je ne te donne pas une contravention, je vais perdre mon travail. Sans rancune, ne me soumets pas à la tentation. » Alors, l'objet de mon message d'aujourd'hui, sans rancune. Et nous allons voir aujourd'hui que Dieu veut, à la base, avant de pouvoir évangéliser, parce qu'au travers de cette série, le filet, nous voulons apprendre comment, pourquoi et quand évangéliser. Et avant d'évangéliser, il nous faut premièrement avoir le cœur de Dieu, chercher le cœur de Dieu. Et au travers de cette série, je crois dans la prière que par la foi, il y a certains d'entre vous, vous allez décider de prendre des cours avec l'Institut de théologie pour la francophonie. Certains, vous allez décider de retourner à l'école. D'autres, vous allez décider d'avoir un emploi stable. Certains, vous allez élargir votre vision. Alors, il y a certaines personnes qui ne le croient pas, mais je le crois fermement. Nouvel espoir, 2014 est plus qu'une année simple. 2014, vous savez, le chiffre 7 est un chiffre de perfection pour Dieu. 2014, c'est deux fois la perfection de Dieu, et je dis amen à cela. Dans Matthieu 13, 46, 48, il est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Verset 47, c'est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. » Alors la grande question que nous avons, c'est quelle est mon espèce de poisson? Est-ce que je suis du bon poisson ou du mauvais poisson? Alors, comment être un bon poisson? Et l'autre question que nous pouvons avoir pour certains d'entre nous, qui sont les pêcheurs? Et comment devenir un pêcheur? Et qu'est-ce qui empêche le pêcheur d'attraper du poisson? Toutes ces questions, nous les verrons au travers de cette série. Ceci dit, aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question de manière très rapide. Une chose qui est importante pour un pêcheur, c'est l'équipement. Nous savons qu'un pêcheur qui est bien équipé, tout va bien pour lui. C'est un pêcheur avec un bon bateau, avec des bons filets, avec une bonne canne à pêche. Et aujourd'hui, Canadian Tire nous vend même des verres artificiels, mais qui font bien le travail. La deuxième des choses dont nous avons besoin, c'est une équipe. L'équipement sans équipe, ça va très mal. On peut être très équipé, mais quand on n'a pas d'équipe, l'équipement se casse. Et c'est ce que nous allons voir, le besoin de l'équipement, mais le besoin de l'équipe aussi. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, je me rappelle encore au début de l'Église, quand on commençait encore, j'ai été contacté par Jonathan. Et pour moi, c'était vraiment une réponse à une prière, parce que pendant ces temps, des fois, en tant que pasteur, on a besoin de repos. Et j'ai dit à Jonathan, c'est possible que tu viennes ici dans la région et que tu me donnes quelques journées de repos. Et tout de suite, il m'a dit oui. Et il était très loin, mais il était dans mon équipe parce qu'il m'a aidé à me reposer. Et il y a plusieurs choses, certainement Dieu prépare plusieurs choses pour nous ensemble. Musique d'espoir, nouvel espoir, hein, vous voyez, il y a quelque chose. On a à cœur ce ministère. L'équipe est importante, l'environnement est important. Si vous allez pêcher pendant qu'il y a une grosse tempête, vous allez certainement avoir des défis. Et nous avons vu la semaine passée avec Pasteur Stéphane le danger de la tempête et comment dans la tempête, Jésus marche sur les flots. L'entraînement est important, l'enseignement, mais surtout aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'attitude ou le caractère. Mon père aimait me dire une chose, il disait « Ton attitude va démontrer ton altitude. » Alors, si tu as une bonne attitude, tu vas aller très haut dans la vie. Le caractère. Et nous allons voir aujourd'hui que l'attitude que Dieu recherche est une attitude sans rancune. Une attitude positive ne peut pas tout résoudre vos problèmes, mais il va ennuyer assez de gens. Je peux vous garantir que si vous avez le caractère de Dieu sans rancune, vous allez ennuyer plusieurs personnes. Vous allez pouvoir surmonter plusieurs défis de vie. Une attitude rigide et rancunière est un signe de paralysie. La caractéristique numéro un d'un bon pêcheur, c'est la foi. Sa capacité de croire qu'aujourd'hui je m'en vais en mer, je vais attraper du poisson. Aujourd'hui je m'en vais en mer, il y a quelque chose qui va arriver. Sa capacité, quel que soit ce qui est arrivé hier, de savoir qu'aujourd'hui il y a des débouchés qui vont arriver. Quelqu'un a dit, un renard change de poil, mais pas de caractère. Et Dieu ne nous appelle pas à être comme les renards. Dieu nous appelle à être des personnes qui changent de caractère jour après jour, qui vont jour après jour à de nouvelles altitudes. Le psaume 15 nous dit « Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son enseignement et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. L'attitude, on ne peut la détecter dans la foule. C'est très facile de se cacher dans la foule. L'attitude, elle paraît souvent quand on est seul, quand on est dans les lieux secrets, quand on est dans notre cercle secret. C'est pour cela que les disciples étaient tellement marqués par Jésus, parce que Jésus était le même dans le lieu secret, tout comme dans le public. Et aujourd'hui, la société nous enseigne de porter des masques. On a notre masque à l'église. Alléluia, pasteur, je suis béni. On a notre masque à l'extérieur. On a notre masque au travail. Et Dieu aujourd'hui veut dire, tu dois vivre ta vie sans rancune partout. Le caractère, c'est la liberté. Si je dis aujourd'hui piqué, certains des fans de Canadiens vont dire souvent. Et malgré la défaite d'hier du tricolore 5-3, j'aurais pas dû le dire. Grande tristesse. Les fans savent que les Canadiens vont donner 100%. Vrai ou faux? Comme dans n'importe quoi, il faut savoir rire de notre impuissance. Et c'est ce que nous allons voir sans rancune, c'est savoir rire de notre impuissance. Je suis à la diapo 10. Subban a écrit ceci, et je pense que c'est très pertinent pour la prédication d'aujourd'hui. Il y a eu cet article qui est paru et qui nous montre un peu c'est quoi la vie sans rancune. À la photo précédente, on avait Subban et Carey Price, pour ceux qui ont aimé le match de cette semaine. J'étais à genoux en train de dire « Seigneur, tu agis encore, tu fais ton œuvre sur la glace ». Mais Subban a dit ceci, « Mes parents sont séparés depuis que j'ai 2 ans. La famille du côté de mon père est à 100% haïtienne et celle de ma mère, une métisse, vient de Chicoutimi. » Mais entre parenthèses, je le dis juste comme ça parce que nos enfants sont métis. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à une fête quelque part et là, il y a une dame qui est venue voir ma femme et dit « Ah, tu es la mère des enfants noirs! » Et j'aimerais juste vous dire là, juste comme ça, là, j'ouvre une porte. Moi, je suis comme ça, je suis direct. Là. J'ai vu ma femme là, reculer à 3 pas parce que c'est autant ses enfants que les miens. Jonathan est métis. Il a les 2. Il fait partie des 2 cultures. Et ici, c'est venu me chercher parce que c'est quelque chose qu'il a écrit. Et nous allons voir comment il vit cela sans rancune. Alors, j'ai donc grandi dans 2 mondes. Un monde noir et un monde blanc. Dans les 2 cas, on m'a élevé selon un principe bien simple. On vit dans un monde de différence. Je devais avoir 12 ans la première fois que j'ai été victime de racisme. Du moins, la première fois que j'en ai été conscient. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Durant un tournoi de hockey, Pee-wee, un joueur de l'autre bord n'arrêtait pas de me traiter de singe à chaque fois que je touchais à la rondelle. Sur le coup, je ne comprenais pas. Et de ce que je me souviens, je voulais juste lui arracher la tête. Ce match-là, j'ai marqué 2 buts. Et mon équipe a gagné. À la fin du match, au moment de se donner la main, le même petit gars est venu me voir et m'a dit « Je m'excuse, bon match ». Je comprenais encore moins ce qui venait de se passer. En repensant à cette histoire aujourd'hui, je me dis que le kid n'avait visiblement aucune idée de ce qu'il faisait, de la frustration, une peur, de la différence et surtout de l'ignorance. Voilà pourquoi j'étais soudainement devenu un singe, un noir dans un milieu blanc. Ça dérange un noir qui vole la vedette dans un milieu blanc. Les partisans du Bruins qui ont traité Piqué Subban de nègre sur Twitter, c'était après le match, c'est juste parce qu'ils ont trop souffert contre les Canadiens. Ils verront. Sont-ils au courant de son frérot Malcolm, qui est un des meilleurs espoirs de leur équipe devant les buts? Parce que le frère de Subban sera probablement un joueur. Et en tout cas, il finit par dire là, dans l'article, il serait temps d'avancer de grâce, laissons nos mentalités dépasser derrière et surtout, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Ça fait assez longtemps qu'on ne vit plus dans un monde uniforme. Moi, j'aimerais te dire que au-delà du monde uniforme, ce qui m'a touché ici, c'est comment Piqué a vécu sans rancune et qu'il a continué à jouer. Et qu'en marquant des buts, au lieu d'écouter, au lieu de prendre tout ce qui était dit autour de lui, il a juste fait ce que tout joueur doit faire. Alors ici, c'est un exemple. Entre les races, ça peut être d'un côté et de l'autre. On sait que le racisme n'existe pas seulement du côté des Blancs. Le racisme, à l'inverse aussi, existe. Mais je voulais prendre cet exemple pour montrer un cœur sans rancune. Et être sans rancune pour plusieurs, ou avoir le cœur de Dieu, avoir une bonne attitude, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être parfait. L'exemple de quelqu'un sans rancune, c'est Abraham. Vous savez, Abraham, lorsqu'il fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. » Alors certains diront, Abraham était un modèle à suivre. Mais comme on le dit assez souvent ici, ce n'est certainement pas pour ses erreurs. C'est vrai, mais il y a plus que cela. Abraham est appelé père de la foi, non pas à cause de sa perfection, mais à cause de son obéissance. À cause de son obéissance. Et aujourd'hui, nous allons voir comment continuer et comment marcher avec ce cœur d'Abraham. Il faut savoir rire de nos impuissances. Et Abraham savait rire de ses impuissances. Abraham, dans différentes circonstances, pensez-y, Abraham a douté avec son épouse qu'ils allaient avoir un enfant et Dieu leur dit, ton enfant va s'appeler, il rit. Il faut vraiment savoir rire pour l'appeler, il rit en plus. Tous les jours, à chaque fois que tu dis Isaac, tu es en train de dire, il rit, viens. Il fallait vraiment avoir un certain sens de l'humour et être capable de rire de notre impuissance. Deux propriétaires rivaux avaient une écurie. Et dans cette écurie, à chaque année, un de leurs chevaux gagnait. Et là, un des propriétaires a dit, chaque année, c'est difficile. C'est toujours moi ou c'est l'autre. C'est toujours moi ou c'est l'autre. Alors, cette année, je vais employer un jockey qui, lui, va faire le travail. J'ai employé le meilleur des professionnels. Alors, il a employé le meilleur des professionnels et le jour de la course, les chevaux sont partis à la prochaine diapo. Les chevaux sont partis à la grande course et juste avant d'arriver, les deux chevaux sont tombés un peu comme ça et les deux jockeys sont tombés. Mais le jockey professionnel a repris courage et remonté sur le cheval et a fini la course. Il a gagné. Ceci dit, quand il a vu le propriétaire était fâché. Et alors, il était rouge de colère. Alors, il se dit, pourquoi tu es rouge de colère? Je suis monté, on a gagné la course. Est-ce qu'il est fâché à cause du cheval? Est-ce que c'est parce que le cheval est blessé? Finalement, le propriétaire lui a dit, tu es monté sur le mauvais cheval. Sans rancune. Sans rancune, c'est de réaliser que nous sommes pécheurs. Des fois, nous pouvons avoir la meilleure connaissance. Des fois, nous pouvons avoir la meilleure intensité. Des fois, nous pouvons rechercher à faire du mieux que nous voulons. Ceci dit, nous sommes des personnes imparfaites. Et il nous faut réaliser cela. Et c'est pour cela que nous vivons sans rancune. Nous devons vivre sans rancune parce que nous comprenons que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous le comprenons. Chaque homme a péché. Chaque homme est un pécheur. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Quelqu'un a dit, « Don't take life too seriously. No one gets out of it alive. » Prends pas la vie trop au sérieux. Il n'y a personne qui en sort vivant. Tout le monde meurt un jour. Alors, si nous ne rions pas de notre impuissance face à nos circonstances, aux forces de la nature, nos intentions de paraître au lieu d'être seront la racine de la rancune, une maladie qui ne pardonne pas. Elle ne pardonne pas. C'est une maladie dangereuse. La rancune est un sentiment d'animosité durable et caché, souvent accompagné du désir de se venger. Je sais que personne ici n'a jamais eu le désir de se venger. Mais j'aimerais te dire que la rancune est une des plaies que nous retrouvons dans l'Église. Et par Église, je ne parle pas de ce bâtiment, je parle de vous et moi. Parce que dans l'Église, on a dit, écoute, si tu es fâché, ne monte pas la colère. Si tu n'es pas satisfait avec ce que l'équipe fait, non, dis pas. Et il y a plusieurs personnes qui ne parlent pas, mais c'est des doux rebelles. En dedans de vous, vous avez une colère incroyable. Vous êtes prêt à exploser. Vous êtes plein de rancune. Je sais que ce n'est pas ici. Hein. Je ne vous parle pas. Mais c'est peut-être à nos auditeurs sur le truchement de l'Internet. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut, nous demande de faire face à la rancune. Il y a un proverbe irlandais qui dit « Mieux vaut d'anciennes dettes que de vieilles rancunes ». Et pour bien comprendre la rancune, il y a deux individus qui peuvent nous aider dans la Bible à bien comprendre la rancune. C'est Pierre et Judas. Pierre et Judas. Pierre, pourquoi? Parce que Pierre avait beaucoup de crédibilité devant les disciples. Et Judas aussi. Imaginez-vous que Pierre, par exemple, lui était dans le cercle privé. Quand il y a eu la transfiguration, je ne sais pas pour vous, moi je n'ai pas encore vu Élie et Moïse. Quand il y a eu la transfiguration, Pierre a vu Élie et Moïse. Waouh, il faisait partie du cercle privé. Il y avait toute une crédibilité. Judas avait de la crédibilité parce que même quand Jésus a dit « Celui-ci va me trahir », aucun des disciples n'a compris. Pourtant, c'était un message assez clair. Celui qui trempe le pain avec moi, voilà, c'est lui qui me trahit. Mais personne n'a douté de Judas parce que Judas avait de la crédibilité. Tu pouvais suspecter les autres, mais pas lui. Non, lui, il connaît le message. Lui, il est capable. Lui, il est toujours à l'heure. Il est toujours là, il est toujours prêt. Pourtant, c'était lui le traître. Pierre a été réprimandé. Tout le monde connaît la scène où vous Vous connaissez peut-être la scène où est-ce que Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » C'est quand même une réprimande. Judas aussi a été réprimandé. Lorsque nous avons appris avec Pasteur Myriam, lorsque Marie a versé son parfum, qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Ne l'attriste pas! » Les deux ont été avertis. Pierre a été averti ce soir même, tu vas me renier. Judas a été averti aussi. Les deux ont vécu des échecs. Les deux ont vécu des échecs. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et Pierre a renié Jésus trois fois. Et la troisième fois, c'est avec conviction, mais je peux le comprendre parce que Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un de la famille de ce gars-là qui se retrouve dans la maison où est-ce qu'on est en train de juger Jésus. Et il dit ceci, « Toi aussi, n'es-tu pas un de ses disciples? » Et il le nia parce que le serviteur était parent de celui à qui il avait coupé l'oreille. Oui, Jésus l'avait guéri, mais Pierre avait quand même eu peur sur celle-là. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Les deux ont regretté. La Bible nous dit que Judas qui a livré Jésus, s'est repenti. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et en se repentant, il a livré, il a dit, j'ai donné du sang innocent. La Bible nous dit que Pierre, lui, dans Matthieu 26, 75, il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Ceci dit, les deux n'ont pas réagi de la même manière. Judas n'a pas ri face à son impuissance. Il a dit, je ne suis pas bon, c'est pas croyable. Ce que j'ai fait, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Parce que pour Judas, c'est lui qui devait être parfait. Lui cherchait la perfection en lui-même. Mais ce qui est beau de voir, c'est que Pierre, il a pleuré. Mais après ça, la vie continue. Qu'est-ce qu'on mange? J'aime Pierre parce qu'il est capable de rire de son impuissance. J'aime Pierre parce qu'il peut dire les plus grandes bourdes, mais après la vie continue. C'est Pierre. Montre-moi un homme de foi et je trouverai un homme sans rancune. Montre-moi un incrédule et je te garantis que son cœur est plein de rancune. Matthieu 12, 33, 35 nous dit que c'est du cœur que la bouche parle. Proverbe 4, 21, 22 nous dit qu'il s'éloigne pas de tes yeux. Garde les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 19, 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors si tu as la rancune à cause de certaines choses qui n'ont pas été accomplies, j'aimerais te dire, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel. La personne qui n'a pas de rancune comme Pierre réalise qu'à la fin de la journée, je suis impuissant, mais lui est puissant. Jérémie va plus loin et dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » La rancune est une émotion toxique. La psychologue québécoise Michèle Larivée a dit ceci. Des études sur les émotions négatives le confirment. La rancœur, le ressentiment, la rancune favorisent la dépression, les troubles anxieux, le stress, les maux de tête, les troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire avec ma rancune? Moi, juste pour le mal de tête, la migraine, OK, Seigneur, prends ma rancune. Prends ma rancune. Ce que disent aussi ces mêmes études, c'est que réussir à se débarrasser de nos colères intérieures améliore notre énergie, le sommeil, le rythme cardiaque. Et j'aimerais te dire que ça améliore l'évangélisation d'une église. Une église sans rancune est une église qui avance, qui sort. C'est une église qui attire. C'est une église magnétique. Un chrétien sans rancune, c'est quelqu'un qui attire. Alors pourquoi? Pourquoi tant de rancune dans le cœur de l'homme? Pourquoi tant de défis à surmonter la rancune? C'est parce qu'on fait tous face à la même chose que Judas et Pierre, et ça s'appelle l'échec. Face à l'échec, tu as un choix. la rancune ou sans rancune. Rancune ou sans rancune. Rencontre des gens face à différents défis de vie. Tu as soit quelqu'un comme Piquet-Souban, soit quelqu'un de très amer. On n'a jamais voulu, on n'a jamais fait, quand je faisais mon cours à la cité collégiale, il y a un groupe de personnes originaires du même pays que mes parents qui sont venus me voir, me disent, toi, on ne va jamais t'engager. Rêve même pas à ça. Le nombre de fois dans ma vie que les gens m'ont dit jamais, c'est incroyable. Incroyable. Mais à chaque fois, Dieu m'a donné un cœur comme Pierre, qui dit merci de me dire jamais. Merci, tu vas voir. Parce que quand tu me dis jamais, je veux te prouver. Je veux te prouver que je suis capable. Il y a quelque chose en moi qui dit, je veux le prouver. Mon Dieu en moi est capable. Je me vois comme David arriver et dire, the voice of truth. La voix de la vérité. Sans rancune. Sans aucune colère. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui de ne pas remplir ton cœur de colère. Tous ceux qui mettent en eux la rancune, la colère, se limitent. Même dans le couple, même dans les relations, la rancune. Tu entends parler de telle chose, puis la rancune se développe. Et qu'est-ce qui arrive avec la rancune? Mais non, on a peur de l'autre. On ne sait plus comment gérer l'autre. Il y a des défis. Un cas typique, c'est Lucie, 45 ans. Garde encore une énorme rancune à l'égard de son frère, qui l'a dénigré pendant toute son enfance. Certaines personnes vont même couper des ponts à cause de la rancune. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, des fois vous allez être avec des gens, vous allez discuter, puis quelqu'un qui va juste commencer à pleurer, puis dire, écoute, moi là, ça fait 25 ans, là, voici ce qui m'est arrivé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été blessé, mais Dieu veut te dire ce matin, tu veux élargir ta tente sans rancune. Amen. Sans rancune. Avoir de la rancune, c'est entrer dans un rapport de force, ne pas plier devant les événements, continuer à refuser la réalité. Car nous avons peur de prendre des actions, changer notre attitude. Les gens les plus rancuniers du monde sont les personnes les plus parfaites. Trouve la personne la plus parfaite, je peux te garantir que cette personne-là est rancunière. Parce que sa perfection n'est pas en Christ. Si ta perfection, toutes les personnes qui comprennent que je ne suis pas parfait, qui comprennent que Dieu, tu m'as pardonné de beaucoup, tout à coup, tu ne peux plus avoir de rancune. Parce que tu réalises de quoi Dieu t'a pardonné. Et ce que nous avons besoin, premièrement, c'est de comprendre la grâce. Puis Pierre a compris la grâce. J'ai été pardonné. Je l'ai renié 3 fois. Waouh! Je vais pardonner. Et c'est ce qui faisait que Pierre, même quand il se retrouvait devant Paul et qu'il ne voulait pas manger avec les gentils et que Paul lui disait « hypocrite », au lieu de se fâcher et de dire « Hey Paul, toi, tu n'as pas été avec nous quand on était avec Jésus », il écoutait et se remettait en question. Parce qu'il avait un cœur sans rancune. Dans l'amour, on cherche la personne parfaite. Mais on devrait plutôt apprendre à voir dans la personne imparfaite la perfection de Dieu. Un exemple de cela, c'est l'Allemagne 40-45 avec la race aryenne. La race pure, à la prochaine diapo. Cette race, on pensait que certaines personnes étaient plus haut dans l'échelle juste à cause de leur apparence. Pourquoi? Parce qu'on recherchait à dire que, écoute, parce que tu es comme ça, parce que tu es blond, tu as les yeux bleus et tu as un corps comme ça. Voilà, Dieu t'a créé afin de dominer tout le monde. La perfection humaine emmène la rancune. Et pour cela, on a tué, il y a une multitude de personnes qui sont mortes. Et je pourrais parler du génocide rwandais, Tutsi ou tout. Je pourrais parler de plusieurs places dans le monde où présentement, il y a plusieurs défis. Mais j'aimerais te dire que Dieu te dit ce matin, ne sois pas trop parfait pour pardonner. Ne sois pas trop discipliné pour pardonner. Ne sois pas trop bon pour aimer. Éloigne toute rancune. Allons ensemble dans Jean 21 et voyons ensemble un homme qui a ri face à son impuissance. Jean 21, 1 nous dit, « Après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra. » Jésus est ressuscité, Jésus s'est présenté aux disciples déjà, ils sont contents, ils savent qu'il est en vie et Jésus va se manifester. Le terme qui est ici, c'est le terme « phanéro ». grec qui veut dire manifester sa gloire. Jésus va manifester sa gloire. Cette scène est une belle scène. Jésus vient et de tout l'épilogue, et ceci est l'épilogue du prologue que nous avons eu au départ dans Jean, pour ceux d'entre nous qui étudions Jean ensemble. Jean vient et conclut. Jean vient et dit, voici ce qui arrive, voici qu'est-ce qui arrive après la résurrection de Jésus. Parce que l'objectif de Jean dans l'évangile, c'est que tu crois, c'est que je crois que Christ est le Fils de Dieu et qu'il peut changer les vies, qu'il peut changer ma vie et qu'il revient bientôt. Sans rancune, parce que Jésus s'infiltre. Jésus s'infiltre. En 1960, une équipe du Mossad, le Mossad c'est la CIA, le service secret israélien, est allé rechercher, kidnapper un des cerveaux de l'Holocauste. Et ce cerveau s'appelait Adolf Eichmann. Et il se cachait en Amérique du Sud, et ce commando est allé, ils l'ont pris, ils l'ont ramené en Israël. Et j'ai suivi hier moi-même, vous pouvez aller sur YouTube puis voir toute la condamnation, tout ce qui arrive, tout le procès. Et c'est pas mal intéressant, cet homme était cruel. C'est incroyable, tuer des enfants. Et il n'a aucun remords. Durant le procès, il n'a aucun remords. Mais il y a un homme qui rentre dans le procès. Et cet homme s'appelle Yehiel Dinur. Cet homme, si vous regardez le procès, vous allez voir qu'à un moment, cet homme regarde Adol et commence à pleurer. Et on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est à cause de ce qui est arrivé, parce que sa sœur a été assassinée par lui de manière froide? Il dit non. Il dit parce que je m'attendais à voir un monstre. Mais la personne que j'ai vue devant moi, c'est un homme comme moi. Et tout à coup, j'ai réalisé de quoi l'humanité est capable. Il a été le miroir de ce que je suis capable de faire. Si mon cœur n'est pas à la bonne place. Et c'est allé me chercher parce que de la même manière que Jésus s'infiltre, le diable s'infiltre. Et si Jésus s'infiltre, ça veut dire que j'ai besoin de discipline dans ma vie. Les disciples ne savent pas que Jésus va venir de manière déguisée. Quelqu'un qui s'infiltre, on dit que Jésus va venir comme un voleur. Tu ne sais pas si un jour tu as nourri un ange. Tu ne sais pas si un jour tu as vêtu quelqu'un qui venait du ciel. Tu ne sais pas. Quelle est la personne que tu es en train d'aider? Même quand tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire dans le royaume de Dieu. Et ne méprise pas cela. Ne méprise pas cela. Je vois la vie comme un test. Un test dans lequel le grand je suis regarde et voit, est-ce que voici mes fils, voici mes enfants, mais je ne veux pas faire du royaume, je ne veux pas faire de la nouvelle terre un lieu de mort, un lieu de tuerie. Alors j'ai besoin de savoir, parce qu'il n'y a pas de sans-papiers au ciel, j'ai besoin de savoir qui est celui, qui est celle qui peut bien gérer le royaume. Et si tu le vois comme ça, tu vas comprendre que Jésus s'infiltre. Le texte continue en disant, Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, donc le jumeau, Nathanaël de Cana, fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre dit, je vais pêcher. Simon, j'aime Simon, il est tellement pas religieux. Vous savez, il y a des chrétiens, vous êtes devenus hyper religieux. T'as faim, va manger au McDo. Relax. Va manger où est-ce que vous êtes devenus tellement, tellement fermé, tellement carré. Simon a faim, il a vu Jésus, il dit, écoute, Jésus c'est super beau. On le voit souvent, mais là, on a faim. Qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, c'est bien. On a besoin d'avancer, là. Il y a quelque chose qui doit arriver. Et Simon dit, écoute, les boys, on va aller pêcher. Et Simon, vous savez, Simon, même si vous faites des erreurs dans votre vie, mais quand vous êtes un homme sans rancune, les gens vont vous suivre. Parce qu'on cherche tous des gens sans rancune. Et il y a des gens, qu'est-ce qui est arrivé? Jean l'a suivi. Qu'est-ce qui est arrivé? Thomas l'a suivi. Thomas l'incrédule! A dit, hey, ça c'est le gars que je veux suivre. Je veux le suivre. Et ils s'en vont ensemble pêcher. Ils vont. Et sans rancune, vivre sans rancune te rend magnétique et productif. Beaucoup de personnes se limitent leur vie. Pourquoi? Par la religion, par des règles, par des rites, par des... OK, tu as faim. Oui, mais le Seigneur a dit, il pourvoira mes besoins. Va chercher une job. Que te relaxe. OK? Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, mais Dieu t'a donné le cerveau. Dieu t'a donné ce cerveau. Il faut l'activer des fois. Il faut faire des choses. Il faut faire des pas de foi. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu ne lui a pas donné un GPS. Dieu a dit « quitte ». OK, je quitte. Où je vais? Il a commencé à marcher. Et le GPS divin lui disait « Papa, voici ». Et qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive en Égypte, il dit « Ça, c'est pas ma femme ». Oh, Dieu lui dit « Écoute, je te délivre. Tu as fait une erreur, c'est pas grave. Moi, je donne pas des coups de pied, je donne des coups de main. Viens. » Et il sort. Il continue le chemin. Dieu, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ceci me rappelle un peu cette histoire de ce père qui retourne à la maison et après une journée de travail, Après une journée de travail, il retourne à la maison et sa femme a eu une longue journée. Vous savez, quand tu gardes les enfants et tout ça, à un moment, on a beau aimer nos enfants, mais on dit, écoute, là, OK, là, tu t'occupes d'eux, là. Et là... Le père rentre et dit à sa femme, « J'ai quelque chose à te dire. » Et la femme lui dit, « Si c'est une mauvaise nouvelle, ne me dis rien. » Alors là, ça, c'est un couple qui avait à peu près, ils avaient 6 enfants. Et la madame, elle savait qu'ils avaient été avec, le monsieur avait été avec les 4 autres enfants la journée, mais quand même, il voulait lui dire quelque chose. Alors le monsieur dit, « OK, j'ai une bonne nouvelle quand même pour toi. Tu sais, il y a un de nos enfants qui n'a pas le bras cassé. » Les 3 autres, vous comprenez. Il a trouvé une manière de lui donner une bonne nouvelle. Un des enfants n'a pas le bras cassé. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même dans les défis de la vie chrétienne, il y a toujours un moyen de rire. Il y a toujours un moyen de savourer la présence de Dieu. Il y a toujours un moyen de le trouver et... Pierre comprenait cela. Pierre dit, hey les boys, venez, on va aller pêcher. On va aller pêcher du poisson. Gary Thomas a dit, l'amour mature est un élément indispensable d'un mariage et moi je dirais d'une relation de qualité. Mais elle doit pouvoir s'étirer. Elle doit pouvoir s'étirer. On doit s'étirer, on doit être flexible. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger? » Moi, j'aime la réponse des disciples. Non. Tu n'as pas mangé, tu as pêché toute la nuit. Tu devrais dire, écoute, c'est qui nous pose la question, « N'avez-vous pas mangé? » Ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais on voit qu'ils avaient un cœur sans rancune. Non, on n'a pas mangé. Alors, sans rancune, c'est réaliser que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire, vous savez, moi, j'ai essayé de me souvenir de tout ce que mes parents m'ont appris. Mes parents m'ont appris la religion. Hein, quand tu renverses du jus de raisin sur le tapis neuf, tes parents te demandent de prier afin que la tâche s'en aille. Prie. Mais mes parents m'ont appris la logique. La logique. Pourquoi, papa, je ne peux pas faire ça? Parce que j'ai dit. Ça, c'est la logique. Parce que j'ai dit. Mes parents m'ont appris à prévoir. Assure-toi de porter des beaux sous-vêtements en cas que tu fasses un accident. Mes parents m'ont appris l'ironie. Ils m'ont appris l'ironie. Continue à rire et je vais te donner une raison de pleurer. Mes parents m'ont appris l'endurance. L'endurance. Reste assis jusqu'à ce que tu finisses tes épinards. Endurance. Mes parents m'ont appris la météo. Hein, mes parents arrivent devant la chambre. Hey, il semble qu'une tornade est passée ici. Météo. Mes parents m'ont appris plusieurs choses. Le Père nous apprend plusieurs choses. Et les disciples comprenaient que le Père, si les pères humains, si les parents humains nous apprennent plusieurs choses, le Père céleste nous apprend plusieurs choses. Et ils étaient là, et ils ont vu cet homme qui a parlé devant eux. N'avez-vous pas mangé? Non, non. Et le texte continue, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc les filets. Maintenant, imaginez-vous cela. Ces gars ont pêché toute la nuit, c'est des professionnels. C'est des professionnels. C'est comme si Jean Ducœur et Déborah venaient ici, et là, ils ont chanté, ils ont eu un certain impact, et là, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et leur dit, écoute, ton rap, là, tu devrais faire tel changement. OK, c'est quoi c'est ta carrière? Est-ce que tu connais René Angélil? Tu tu vas chercher des contacts. Pourquoi? Parce que c'est juste un inconnu. Ils font face à un inconnu. Ceci dit, ils écoutent tout de suite. Pourquoi ils écoutent tout de suite? Parce que leur cœur est sans rancune. Quand tu es sans rancune, tu ne remets pas en question. Tu n'es pas « Oh, voilà, le dernier docteur que j'ai vu. Hein. Oh, il avait fait une erreur de ceci. » Eux sont toujours comme ça. Les églises, hein? Comment ils sont? Et oh! Ottawa! Ottawa, hein? Qu'est-ce qu'on va avoir d'Ottawa encore? Pourtant, Ottawa, c'est le lieu de la bénédiction. C'est Jérusalem. Ah, ceux qui peuvent dire amen! Alléluia! Ottawa! Oh! Un jour, les sénateurs gagneront la Coupe Stanley. Un jour, un jour, un jour. Ça viendra. Alors, sans rancune, ça nous aide, c'est aider à considérer l'ouvrage de Dieu. On considère l'ouvrage de Dieu dans nos vies. Tout à coup, on arrive comme dans Romains 1, 20, 21, dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Considérez-les. Ce matin, tu t'es levé. Considère. Ah, je respire. Alléluia. Merci. Considère. Considère quand tu manges. Alléluia. Quand tu es ici. Alléluia. Quand tu es avec quelqu'un, tu es en relation. Ah, Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas en relation. Quand tu es en santé, considère. Considère que tu es un Dieu quelque part. Quand ça va bien, tout comme quand ça va mal. J'aime beaucoup dire, tu aurais pu être une guenon ou une fourmi. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Considère. Considère, Seigneur, merci, c'est bien, j'aime la nature. Mais Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi. Quel privilège! Alors le disciple que Jésus aima dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il a reconnu, il s'est rappelé d'un événement qui est arrivé dans le passé. Il a dit, non, ça se peut pas, on a attrapé tellement de poissons. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alors quand tu es sans rancune, tu te positionnes. Tu te positionnes pour être béni. Quelqu'un m'a dit que la bénédiction, c'est comme s'occuper d'un jardin. Dans un jardin, ce n'est pas ajouter des tomates qui est important, c'est enlever la mauvaise herbe. Enlever la mauvaise herbe. La même chose avec la vie chrétienne. Ce qui est important, ce n'est pas d'être spectaculaire, mais c'est d'enlever la mauvaise herbe dans ta vie. Dans l'Église de Dieu, ce qui est important, c'est quoi? Enlever la mauvaise herbe. Enlever la mauvaise herbe. Et le plus qu'on enlève la mauvaise herbe, qu'est-ce qui arrive? Oh, des belles tomates! Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais le matin, je me réveille, j'enlève la mauvaise herbe. Et c'est ça que Dieu nous appelle à enlever la mauvaise herbe. Et quand on enlève la mauvaise herbe, sans rancune, c'est expérimenter le miraculeux. Le miraculeux. Waouh! Qu'est-ce qui arrive? Waouh! Des poissons! Waouh! Wouh! Là même, les gens qui n'ont même pas été là disent 100, 50, 3 poissons parce que Jean était bon en mathématiques. Il les a comptés. Waouh! Tous ces poissons. Mais le texte ne finit pas là. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet. Pourquoi il tira le filet? Simon était fort, hein? Il était probablement... Imaginez-vous, c'est quand même 6 gars qui sont restés dans la barque. Ils essaient de tirer le filet, ils n'arrivent pas à le tirer. Et Simon monte, le texte dit, Simon monta dans la barque et tira le filet plein de 153 poissons. Je pense que c'est pour cela que Jean écrit 153 poissons. Il a tiré un filet plein de 153. Quelle passion! Il a réalisé, waouh, c'est Jésus, il y a quelque chose qui est arrivé, mais il y a toute une passion qui arrive quand Dieu exerce le miraculeux dans ta vie. Sans rancune, c'est renouveler tes forces. Dans Lamentations 3:21, il est écrit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Quelles que soient les circonstances de ta vie, il y a quelqu'un qui est venu ici, tu as un fardeau, tu as un poids, il y a des choses dans ta vie qui sont arrivées, mais voici ce que tu dois repasser dans ta tête, pas tes circonstances, pas ce qui est arrivé, voici ce que je repasse dans mon cœur. Dans dans le livre de Lamentations, ce qui arrive, c'est que Jérusalem est tombée, Jérusalem va être déportée, et qu'est-ce qui arrive? Voici ce que je veux repasser dans mon esprit. Jérémie dit, ce qui me donne de l'espérance. Je ne veux pas repasser ce qui me donne du désespoir. Je vais repasser dans mon esprit ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, il y a quelqu'un qui veut dire ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Ce n'est pas chaque 2000 ans. Chaque matin. Quelle bonne nouvelle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Enlève-moi tout, mais donne-moi Jésus. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère. La bonté de l'Éternel est pour celui qui espère. Tu as arrêté d'espérer, commence par espérer, tu verras la bonté de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère, pour l'âme qui le cherche. L'âme sans rancune cherche l'Éternel. En conclusion, j'aimerais dire que Jésus a continué en disant, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait demander, « Qui es-tu? » Parce qu'il savait que c'était Jésus. Il savait. En plus de ça, il savait qu'ils étaient en train de pécher pendant que Jésus leur avait dit d'aller à Galilée. On ne veut pas se faire chicaner. Donc, personne ne lui demandait, « Qui es-tu? » Et Jésus approcha, prit le pain et leur donna en même temps que le poisson. Et si vous lisez le texte, vous allez voir même que Jésus avait déjà du pain et du poisson. Il avait déjà produit du pain et du poisson. Il était déjà en train de préparer du pain et du poisson. Donc, les gars arrivent, ils disent, « Allez, emmenez votre pain et votre poisson parce que ça, c'est mon lunch. Prenez votre lunch et on va préparer ensemble. » Jésus te dit, « Écoute, moi, j'ai produit, moi, j'ai été à la croix, mais viens, moi, je vais te montrer comment toi, avec moi, je vais t'épauler dans tes imperfections, je vais te montrer comment tu peux devenir parfait. » Sans rancune, c'est réaliser que Jésus n'abandonne jamais. Jésus n'abandonne jamais. Ceux qui m'ont connu enfant savent que je n'aimais pas perdre. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui m'a connu enfant, la première chose, c'est « Ah, toi, le petit qui n'aimait pas perdre. » C'est la chose qui revient. J'ai été dans un camp où est-ce que je dépose mes enfants avec l'ACF, où est-ce que j'ai rencontré une de mes anciennes gardiennes. Elle dit « Ah, toi! » Le petit qui n'aimait pas perdre. Je n'aimais pas perdre. Aimer perdre, c'est votre problème. Moi, je n'aimais pas perdre. Je n'aimais pas perdre. Et des fois, quand on n'aime pas perdre, ce qui arrive, c'est la rancune qui nous envahit. Un jour, on joue au ping-pong avec un ami. Et cet ami est pasteur aussi aujourd'hui en Grèce, Papi Marini. Son père est évêque chez nous, en tout cas, il est d'une grande église, le centenaire. Et on était là en train de jouer au ping-pong, moi et Papi, on s'amusait. Papi, c'est un homme qui, quel que soit le sport qu'il fait, c'est énervant. Il est bon, quel que soit ce qu'il fait. Et il joue au basket, il va te faire des choses. Ah, c'est juste la première fois que tu joues avec papy et il va te faire des dunks, il va faire des affaires incroyables. Il joue au soccer, c'est incroyable. Et là, il jouait au ping-pong, peut-être pour sa troisième fois, et c'était sur ma table, en plus. Et j'ai souffert. C'était incroyable. Première. Et nous, en tant que jeunes, quand tu es compétitif, il y a beaucoup de provocations. Oh, tu verras qu'est-ce qui va t'arriver. Et là, tu as chaud, hein? Et là, on se lançait des paroles comme ça. Des paroles constructives. Et à l'intérieur de moi, la rancune se bâtissait. Mais je ne pouvais pas gagner, quel que soit ce que je faisais. Et le plus que mes émotions allaient mal, le moins bon que je devenais. Mes coups devenaient plus forts. Pour ceux qui ont déjà joué le tennis de table, quand tu frappes fort, ce qui arrive, bien, il faut quand même être précis. La précision est plus importante que la force. Et j'ai perdu au moins 6-7 fois. C'était plus 12 fois, mais vous direz ça à personne. 6-7 fois. Et là, papy continue à parler. Mais à l'intérieur de moi, même mon cœur bouillait. Je dis, comment je peux l'avoir, lui? À un moment, elle était à côté. Puis il continue à parler. Hein. Il lâchait pas. Je le regardais. Puis des scénarios sont montés. Et là, un peu comme Jésus a dit à Judas, à un moment dans le texte, on dit, le diable entra dans Judas. Nous avons tous un petit côté Judas. Et là, une mauvaise idée m'est montée dans la tête et j'ai donné un coup de pied à papy dans la bouche. Papy a commencé à saigner. Mon frère qui est, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? 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 Puis, sur le coup, j'ai été satisfait. Je dois vous dire, j'avais pas de remords. Sur le coup, j'ai vraiment été satisfait. Pour ceux qui m'ont dit, ça, c'est le vieux Emmanuel. Ah, tu pensais que tu allais rire de moi. Qui rit maintenant? Et là, tout à coup, la conscience frappe. Et là, tu réalises la conscience, elle s'appelle maman. Ça frappe. Et là, je réalise ce que j'ai fait. Mais ce qui est arrivé avec tout ça, après, c'est que les jours suivants, ça a été difficile. Papy, c'était mon ami, c'était mon voisin, j'étais souvent avec papy. Mais là, je voyais papy, puis il fallait que je m'en aille ailleurs et tout ça. Et heureusement pour des enfants, après 1, 2, 3 jours, après, on recommence à jouer ensemble. Mais dans la vie des adultes, c'est pas comme ça. Et c'est pour cela que Dieu veut préserver nos cœurs de la rancune. Une autre chose que je faisais, juste en conclusion, j'avais emmené un Nintendo Wii ici aujourd'hui, mais il est resté dans mon bureau, c'est pas grave. Sur le Nintendo Wii, moi j'avais pas un Nintendo Wii, j'avais vraiment... En tout cas, pour ceux qui connaissent l'Atari, c'est ce que j'avais. C'est rétro, mais nous on était cool. Et là-dessus, il y avait un bouton qui s'appelait « Reset ». Vous savez c'est quoi un « Reset » ? Qu'est-ce que ça aide à faire, le bouton? C'est quel que soit ce qui arrive dans le jeu, surtout quand l'autre est en train de te battre, tu appuies très rapidement, sans qu'il voit, tu dis « Ah! Oh! » Ah! Et j'étais souvent celui qui aimait appuyer « Reset » quand je perdais. Et Dieu m'a changé. Ah. Me regardez pas comme si je suis le seul à faire ça. Vous aussi, vous avez fait ça. Je vois déjà, you're on your own. T'es seul, vas-y. Mais vous savez, ça, c'est l'attitude de Judas. Judas voulait par lui-même appuyer le bouton reset. Mais Dieu nous demande ce matin d'avoir une attitude sans rancune. Et mon appel est très simple ce matin. Mon appel, c'est en toi, quel que soit ce que tu as, que ce soit pour les gens qui t'entourent, que ce soit pour la communauté, que ce soit par rapport à des choses qui sont arrivées dans ta famille. Des fois, c'est des choses qui sont lointaines. Moi, je suis un fils de pasteur, j'ai habité dans une école. J'aimerais vous dire, une des promesses que je me suis fait dans la vie, je ne serai jamais pasteur. Parce que j'ai habité à un moment dans une école et je sais comment le peuple de Dieu peut aussi être dur sur des pasteurs. Être pasteur, c'est pas facile. J'ai un grand respect pour chaque personne qui a son cœur d'avoir cet appel pastoral. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Semaine après semaine, c'est non seulement la préparation de message, mais même ta voiture, le monde regarde. Quelle voiture il s'est acheté? Moi, je me rappelle encore, on regardait nos souliers, on disait, voilà, c'est l'argent des dîmes, hein? Ça s'en va dans les souliers des enfants. C'est quand même une pression. On habitait en haut. Et on devait descendre dans les toilettes de l'école pour aller prendre notre douche et tout ça. Et moi je ne trouvais pas que c'était le fun. Je ne trouvais pas, oh, Seigneur, merci pour l'appel de Dieu dans la vie de mon père. Et ça peut rester dans toi. Des années après, ça peut rester dans toi. Puis ça bâtit une rancune. Et tout à coup, tu ne sais pas, tu réagis. À chaque fois, tu as des actions. C'est dans ton inconscient, mais tu as des actions qui sortent, mais ça vient de là. La rancune qui a été gardée. Et à chaque fois que tu entends, moi, j'ai un pasteur que j'aime beaucoup qui dit la chose suivante, il dit que quand son père dit, c'était moi et mon fils, puis il dit à son père, parle pour toi, c'était toi. Mais je le comprends, il a pardonné et tout ça. Mais derrière tout cela, ce que j'apprends, c'est qu'on ne peut pas tout le temps en vouloir aux gens. On ne peut pas tout le temps en vouloir à nos parents. On ne peut pas tout le temps en vouloir au système. Parce qu'on est tous imparfaits. Et c'est dans l'imperfection que Dieu s'élève. C'est dans l'imperfection que Dieu démontre sa bonté. Et c'est dans des choses imparfaites, c'est des années après que tu rencontres des gens encore aujourd'hui, dans les imperfections de mes parents, c'est dans des années, des gens qui disent, si on est encore ensemble, c'est à cause de... Wow! Et quel que soit ce qui est arrivé dans nos vies, quand on regarde ces choses, on voit que Dieu a sa main mise, quelles que soient les circonstances. Et quand tu n'oublies pas que Dieu est celui qui n'a jamais perdu le contrôle, tout à coup, tu pardonnes. Tu pardonnes toujours. Parce que tu dis, oui, tu sais, là, je suis sûr qu'au ciel, il y aura une réunion de personnes qui se sont blessées. Oh, tu sais, je t'ai fait mal. Oh. Mais on est tous ici. On est tous ici. On est ensemble. On va continuer. Wow, Jésus, il est quelque chose, hein? Parce que si c'est pas Jésus, je t'aurais donné les cinq ministères. Et c'est Jésus qui a pris le reset. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. C'est Jésus qui a pris le reset. Le reset de ton mariage, c'est Jésus qui va l'appuyer. Le reset de ton travail, c'est Jésus qui l'a appuyé. Le reset de ta carrière, c'est Jésus qui va l'appuyer. Et quand tu te livres totalement, tu te donnes totalement à Christ comme ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a une onction, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Et tout à coup, tu es sur le chemin du miraculeux. Alors, on va se lever. On va incliner nos têtes. J'ai à cœur. Je sais que ce message est pour tout le monde. Il n'y a personne ici dans ce lieu qui n'a jamais eu de la rancune. Personne. Et j'aimerais qu'on regarde de manière très concise, de manière très sincère, les lieux dans nos vies. Où est-ce que nous avons retenu de la rancune? Nous voulons ce lieu plein pour Jésus. Non pas ce lieu plein pour nous, mais plein pour Jésus. Et pour que ce lieu soit plein, il nous faut relâcher. Il nous faut relâcher. Nous voulons le miraculeux, mais Dieu est un feu dévorant. Nous ne voulons pas être de ceux qui voyons le feu sur la montagne, mais qui construisons un veau d'or, juste où est-ce que la manifestation de Dieu est présente. Seigneur, nous disons non. Je dis non au veau d'or de ma vie de rancune. Oui, j'ai été blessé. Oui, on m'a menti. Oui, on m'a trahi. Et puis, on t'a trahi. Et tu as pardonné. Seigneur, je relâche. Finis les mal de tête, Seigneur. Seigneur, toi, tu es capable. Ou est-ce que moi, je suis incapable? Toi, tu es capable. Oh, Jésus. J'aimerais que vous répétiez après moi, Père éternel, je relâche toutes les rancunes du passé. Tout ce que je peux avoir dans mon cœur. Tous les lieux où est-ce que j'ai raison. Je dis, Seigneur, à toi la clé. Prends toute la place. Seigneur, je n'ai pas toujours été traité de la bonne manière. Mais toi aussi, apprends-moi à endurer pour durer. Dans ton nom tout-puissant. Et ceux qui le croient, vous pouvez donner une grande main d'applaudissement au Seigneur. Bon dimanche.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.